Commencions à lire un proverbe dans Proverbes chapitre 10. On va rester dans les proverbes cet après-midi. Je vais vous lire quelques proverbes. Qui dit proverbe dit forme de sagesse et aussi une application de la vérité au quotidien. Ça peut nous aider à vivre les proverbes. Alors une chose importante quand même, j'en profite, c'est juste une aparté, mais un proverbe, c'est un proverbe. D'accord ? Donc qu'est-ce que ça signifie un proverbe ? Ça signifie que c'est une généralité. Ça ne veut pas dire que ça s'applique à 100% des cas. Parce que je dis ça, d'un côté on doit espérer recevoir des promesses de Dieu, et parfois Dieu utilise les Écritures bien entendu pour nous encourager. Mais parfois il y a des proverbes très positifs avec des promesses, et les gens s'attendent à ce que ça marche à tous les coups. Mais c'est pas une formule magique, un proverbe. Un proverbe, c'est simplement un enseignement qui nous est donné quant à notre manière de vivre et des promesses générales de bénédiction. Je vous donne un exemple. Est-ce que Joseph a marché avec Dieu ? Oui. Est-ce que Joseph a été béni dans tout ce qu'il a entrepris ? Oui et non. D'accord, ça dépend qu'est-ce qu'on appelle bénédiction. Mais je veux dire, Joseph a marché avec Dieu, mais ça n'a pas, entre guillemets, tout, ça ne lui a pas toujours réussi. D'accord ? Les apôtres, est-ce que les apôtres ont honoré le mandat de Dieu ? Lorsque Dieu a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, est-ce qu'ils l'ont fait ? Oui. Mais de quelle manière ils sont morts ? La plupart sont morts martyrs. Et avant cela, ils ont pu être torturés, en prison. Vous voyez, l'apôtre Paul, quand il fait la liste aux Corinthiens de tout ce qu'il a traversé, on a l'impression qu'il a Dieu contre lui, d'accord, d'un point de vue naturel. Donc je vous dis ça parce que parfois les gens citent un proverbe en disant « la Bible dit ça », c'est un proverbe. Ça veut dire que ça marche dans la plupart des situations. Mais dans une situation personnelle, ça peut ne pas fonctionner. Donc vous voyez, on a parlé un peu à midi dans le temps de questions-réponses. On peut pas manipuler Dieu, même en utilisant sa parole. En disant, voilà, t'as vu Seigneur, t'as écrit ça, donc moi je fais ça, mais du coup tu me dois ça. Ça marche pas comme ça. D'accord ? Bon, la marche avec Dieu, c'est une relation d'amour et de grâce. Et quand on marche dans la grâce, on donne gratuitement. D'accord ? Même s'il y a des promesses. Et si Dieu répond d'une manière ou d'une autre dans notre vie en fonction de ce que les proverbes nous disent, par exemple, pour ne parler que d'eux, c'est une grâce. Mais Dieu nous doit rien dans l'absolu. D'accord ? On l'honore, on le loue, et voilà. Donc, Proverbes chapitre 10, verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Alors, la main lâche, là, c'est pas une main peureuse, hein, ou... qui essaye de se protéger, c'est le mot lâche, c'est dans le sens d'être molle. Hein, quelqu'un qui a une main lâche, c'est voilà quelqu'un qui ça arrive des fois, vous serrez la main à quelqu'un, il y a rien, vous savez, il y a pas de tonicité, la personne est là, on dirait qu'elle attend que vous lui fassiez un baise-main, mais elle vous serre pas la main. Donc ça, c'est une main lâche. Et c'est vrai que quand on bricole ou quand on fait du sport, quand on a une main lâche, ça sert à rien. Pourtant, une main, c'est précieux. On peut faire plein de choses avec une main. Mais quand elle est lâche, c'est un outil qui est complètement inutile. Et c'est intéressant, ce que vous allez voir dans les quelques versets qu'on va lire, c'est que souvent, celui qui est charnel a quand même la provision de Dieu. Là, quand il est dit « celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit », le fait de s'appauvrir, c'est pas réjouissant. Donc le pauvre ou celui qui s'appauvrit peut dire « bah oui, mais moi j'ai pas de chance ». Non, non, t'as une main. Dieu t'a donné une main, mais elle est lâche. C'est-à-dire que tu ne l'utilises pas comme il le faudrait. Donc ne reproche pas à Dieu du fait que tu t'appauvrisses. C'est parce que tu n'utilises pas ce que Dieu t'a donné pour pouvoir t'enrichir. Donc tu t'appauvris, parce que tu n'utilises pas ta main correctement. Vous voyez le point ? Et on peut appliquer ça dans plein d'autres domaines de notre vie. Par exemple, tous autant que nous sommes, on est d'accord sur le fait que le temps que nous vivons là, nous l'avons tous. Hein? Je ne sais pas combien de temps on va vivre chacun d'entre nous, mais là, le présent, on le vit tous. C'est-à-dire que tous individuellement, on peut faire quelque chose maintenant. Ça a été réparti, ça nous a été donné à tous. On est vivant, nous sommes, la plupart d'entre nous, en bonne santé. Ça veut dire qu'on a des opportunités. À partir du moment où on a du temps, on a des opportunités. Alors ça peut être des opportunités pour faire le mal, pour travailler ou œuvrer pour le royaume des ténèbres, ou alors pour œuvrer et travailler pour le royaume de Dieu et de faire le bien autour de nous. Mais le temps, c'est pas quelque chose de neutre. Parce que le temps est neutre quand il n'y a pas de vie. Mais là, comme il y a de la vie, ça veut dire qu'il y a des opportunités de faire quelque chose dans le temps qui nous est imparti. Nous sommes vivants. Et donc celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, c'est-à-dire qu'il ne met pas en action tout ce que Dieu lui a donné, il ne profite pas de ce que Dieu lui a donné. Ça rappelle un peu la parabole des talents, vous savez. Et donc la personne a des talents, mais les met de côté, les fait pas fructifier. Par contre, la main des diligents enrichit. Donc là, ça part d'une main. Alors le mot en hébreu, c'est charutz. Je sais pas si je le prononce correctement. Mais le mot diligent, ça parle de quelque chose de tranchant. C'est intéressant parce que c'est comme si on disait une main tranchante ou une main aiguisée. Et ça a donné le sens d'être diligent. C'est-à-dire que c'est une main efficace. Vous savez, j'ai vu ça moi quand je travaillais dans les champs par exemple. À l'époque, le foin ou les pailles, ça se faisait avec des bottes de ficelle. Et puis parfois, pour une raison ou pour une autre, que ça soit avec les bottes de paille, mais ça peut être dans d'autres circonstances, il y a des accidents qui peuvent se produire parce que quelqu'un est coincé dans une corde, dans une ficelle ou autre. Et ce qui fait que vous demanderez à n'importe quel fermier, surtout à l'époque, mais ça doit être le cas encore aujourd'hui, il a toujours un couteau dans la poche. Parce qu'un couteau peut être salvateur. Vous pouvez couper une corde, couper un objet qui est en train de vous blesser. C'est-à-dire qu'il y a, c'est une sécurité un couteau. Mais lorsque vous avez un couteau qui n'est pas aiguisé, ça m'est arrivé une fois et puis on s'est bien moqué de moi, parce que je ne l'avais pas affûté justement. Ah, j'ai bien sorti le couteau là, je l'ai ouvert, mais la ficelle, c'était plus une scie qu'un couteau. C'est-à-dire que j'ai mis un temps fou à couper la ficelle. Ça va que ce n'était pas trop dangereux. Et donc, il n'y a pas eu de conséquences particulières. Mais il aurait fallu agir rapidement, mon couteau servait à rien, parce qu'il n'était pas aiguisé, il n'était pas tranchant. Et dans la vie, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le temps que nous avons, les opportunités que nous avons, elles peuvent être comme des objets tranchants, c'est-à-dire qui ont un impact sur ce qu'il y a en face, un impact sur devant l'adversité, devant la paresse, devant la lassitude, devant la fainéantise, devant les obstacles. C'est-à-dire que celui qui va prendre des décisions et qui va être volontaire dans ce qu'il fait va avoir un impact sur son environnement. Vous savez, que ça soit dans le bien ou dans le mal, mais les gens qui réussissent, ce sont des gens qui ont des objectifs et qui font tout pour les accomplir. C'est-à-dire qu'ils ont une vie qui est tranchante. Et c'est intéressant parce que ça parle d'être aiguisé donc diligent. Quelqu'un de diligent, c'est quelqu'un qui va avoir un impact sur son entourage. C'est un peu comme dans une équipe au travail, vous discernez quand il y a une personne qui fait la différence avec les autres. Parce que simplement, elle va au-delà peut-être de ce qui est normal. Et c'est pas uniquement grâce à ses dons ou ses capacités, mais c'est à cause de son volontariat. Cette volonté de bien faire les choses, d'être utile, d'être intègre, de racheter le temps d'une certaine manière. Et on ne peut pas avoir une vie épanouie si on se laisse bercer par le temps. Il faut agir contre le temps. Si vous remarquerez dans l'évangile de Marc, c'est l'évangile qui parle le plus du côté humain de Jésus. Et il y a en permanence le mot « aussitôt ». Jésus fait un miracle, puis aussitôt ils se mirent en marche, aussitôt il prêcha, aussitôt, sans arrêt, il y a des séquences comme ça sur « aussitôt ». C'est-à-dire comme s'il y avait une urgence de la part de Jésus. Il savait que son temps était court, et donc il n'a pas été oisif. Alors bien entendu, sa vie a eu un impact parce qu'il était Jésus, mais aussi parce qu'il y a eu une diligence dans sa façon d'œuvrer. Et on voit ça après dans la vie des apôtres, en particulier avec l'apôtre Paul. C'est ce souci de racheter le temps. Et alors évidemment, on ne peut pas tout contrôler. Des fois, on prend des bonnes décisions, et puis il va y avoir des obstacles, de la persécution, des échecs. Ça, c'est une autre histoire. Mais cette volonté de dire, non, je me laisse pas bercer par la vie comme ça. Je vais, d'une certaine manière, moi, bercer la vie, au travers des engagements qui sont les miens. Pour reprendre l'image du couteau, j'avais noté là, essayer de couper de la viande avec un couteau qui ne coupe pas. C'est pas rigolo. Ben, il y a des gens qui ont une vie qui est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés et ils n'arrivent pas à couper la viande. Ils n'arrivent pas à s'en sortir, tout simplement parce qu'ils ne sont pas volontaires, ils subissent les choses. Alors qu'en réalité, ils ont une main comme les autres et ils ont tout ce qui contribue à la piété en tant que chrétien. Et ça a donné d'ailleurs le mot charetz, là, ce mot pour diligent. La deuxième application, qui est plus figurative, ça part de décision stricte, de détermination et de jugement. Et c'est intéressant parce que quand quelqu'un vit comme ça, ça produit du discernement. Pourquoi ? Parce que la personne sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle est, et les Écritures nous expliquent ce que nous sommes faibles, pécheurs, désobéissants par nature, rachetés par le sang de l'agneau, nous sommes une nouvelle création, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, une destinée éternelle nous attend. Donc nous savons où nous allons. Et à partir du moment où il y a la parole de Dieu qui nous remplit, il y a une diligence, il y a une l'amour de Dieu nous presse et il y a cette volonté d'aller au-delà de l'adversité et des difficultés. Et donc ça engendre des convictions. Prenons la parole de Dieu. Imaginons que vous avez quelqu'un là qui écoute ce qui est en train d'être dit ou qui écoute même régulièrement, qui se rend régulièrement à l'église, il écoute la parole de Dieu. Mais si à un moment donné, il ne s'en saisit pas comme on se saisit de quelque chose avec sa main. Si ma main est lâche, moi j'attrape rien là, d'accord ? Je peux faire ce que je veux, ça sert à rien. Mais si je suis déterminé, à ce moment-là j'obtiens quelque chose. Et la parole de Dieu peut guérir, peut donner des convictions, peut donner du discernement, peut donner une vision, peut nous encourager, peut procurer de la joie, peut nous reprendre, si on se saisit de cette parole de Dieu. C'est-à-dire que nous l'écoutons, et comme on le voit avec les prophètes, quand Dieu leur demande, vous savez, de manger le rouleau du livre, on voit ça dans Apocalypse, chapitre 4 ou 5, je ne me rappelle plus, non, plus tard, au milieu du livre. Mais Ézéchiel, la même chose, Jérémie, à chaque fois Dieu demande de manger le rouleau, c'est manger la parole de Dieu. Parce que Jésus est la parole incarnée, et il est le pain de vie, et donc cette nourriture, cette manne nous nourrit. Et quand on est bien nourri, qu'on se saisit, qu'on assimile la parole de Dieu, il se passe un principe spirituel très étonnant, surprenant et encourageant, c'est qu'on va de l'avant. C'est qu'on commence à marcher par la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et donc il est très important, si on veut avoir des convictions et du discernement, d'être aiguisé dans notre façon de vivre. Et on peut se tromper d'ailleurs. D'accord, on peut croire certaines choses à un moment donné, on peut penser que telle ou telle décision est bonne, et peut-être qu'on fera des erreurs. Mais la passivité est l'atelier du diable, toujours. La passivité est l'atelier du diable. En Proverbe 8:12, il est dit « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. » Donc c'est Dieu qui parle, et il est personnifié par la sagesse. Il dit « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. » Et je possède la science de la réflexion. Vous voyez, quelqu'un qui pense avec Dieu va avoir cette sagesse et cette réflexion qui va lui donner le discernement. C'est Dieu qui a le discernement parfait. Mais quand on pense avec Dieu, on commence à avoir du discernement. Rappelez-vous, en Ésaïe, il est dit que nos pensées ne sont pas ses pensées et ses voix ne sont pas nos voix. Donc si on n'est pas raccord avec ce que Dieu dit ou pense, notre vie va aller de travers, forcément. Soit parce qu'on sera subjectif, désobéissant, ignorant, naïf, séduit, il peut y avoir toutes les options, des fois elles se mélangent, il y en a plusieurs, mais lorsque c'est la parole de Dieu qui nous conduit, il y a une détermination et qui nous permet de lutter dans le combat spirituel dans lequel nous sommes de toute façon. D'accord ? En Proverbe 12:24, il est dit « La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. » En fait, en hébreu, c'est plutôt « la main lâche devra payer des tribus », c'est-à-dire devra payer un prix, sera assujettie à quelqu'un, un peu comme une armée qui doit payer un tribut en tant que vassal devant un suzerain qui est supérieur à vous. Et vous savez, Dieu nous a appelés à la liberté, non pas à l'aliénation et à l'esclavage du péché ou d'autrui. Et il est important de comprendre ça, c'est-à-dire que si on se laisse aller dans notre vie, on va être tributaire de se laisser aller. Par exemple, quelqu'un qui que ce soit dans l'Église, mais une personne qui n'a pas un emploi du temps pour l'avenir, je ne sais pas comment va se passer sa vie. C'est-à-dire, quels sont vos objectifs? Alors vous allez me dire, mais je n'ai pas besoin d'objectifs, moi. Éventuellement, je veux épargner tant, je veux construire une maison. Oui, ça fait partie de vos objectifs, peut-être, mais spirituellement. Ou pour l'Église, quels sont vos objectifs? Ça peut être dans notre étude de la parole de Dieu. J'ai peut-être l'objectif cette année de comprendre le livre d'Amos. C'est un objectif. Et à partir du moment où j'ai cet objectif, je vais commencer à m'informer. Je vais peut-être acheter un... Déjà, je vais peut-être le lire. On va commencer par là, le livre d'Amos. Et puis on va peut-être chercher un livre, un livre de commentaires là-dessus. On va peut-être poser des temps de questions, dans les temps de questions-réponses, des questions au pasteur ou à d'autres enseignants. Et puis ça va donner une dynamique dans l'Église. Mais on a un objectif. On veut savoir de quoi parle le livre d'Amos. Et à partir du moment où on a cet objectif, on devient tranchant. On ne subit plus notre emploi du temps. On commence à le gérer. Après, ça, je sais pas moi. Quel est le ministère dans lequel je veux m'investir si besoin est? Peut-être que je suis déjà investi dans un ministère, mais quel est l'objectif de mon ministère cette année? Je suis à la louange, quel est mon objectif pour l'année? Quel est mon objectif pour le trimestre? Si je dois, moi, chercher des champs ou je suis responsable de trouver des champs, quelle est ma responsabilité à 3 mois, à 6 mois, à 1 an? Combien de nouveaux champs on va chanter cette année? Quelle sorte de champs nous allons chanter? Quelle sorte de louange, quelle sorte de parole je vais rechercher? J'ai un objectif. Je suis simplement quelqu'un qui répète, je suis chanteur, chanteuse. Mon objectif, c'est peut-être performer ma voix, peut-être de commencer un chant solo. Mon objectif, ça va être celui-là. Peut-être aussi de prier pour le groupe un peu plus. Peut-être que je priais très peu. Mais je vais consacrer peut-être 20 minutes par semaine, une demi-heure par semaine, je vais prier pour le groupe de louanges dans lequel je fais partie, nommément, individuellement, je vais prier pour chaque personne. Je vais prier pour que la louange suscite une onction qu'on n'a jamais eue auparavant. J'ai cet objectif-là, et donc je vais prier. Ce ne sera pas simplement un vœu pieux, ce ne sera pas simplement « Ah, chez eux c'est super, mais chez nous c'est moins bien », ça peut arriver. Oui, mais alors quel est l'objectif? Plutôt que simplement faire ce constat. Est-ce qu'on a la main lâche en disant, ben voilà, c'est comme ça. Ou est-ce qu'on se dit, non, je prends le taureau par les cornes, comme on dit, et je vais de l'avant. J'enseigne, ben, quels sont les livres que je connais mal? Quels sont les messages que je vais prêcher? Est-ce que je vais prêcher sur un thème? Est-ce que je vais prêcher sur un livre suivi? Est-ce que je vais, je sais pas, de qui je vais m'inspirer? Quels sont les ouvrages que je vais lire? Quels sont mes objectifs? Je vais lire combien de livres par mois? Si on n'a pas cet objectif-là, on lit pas. Sauf pour celui qui, naturellement, je dirais, est passionné par la lecture. Il aime ça, donc il lit. Pour lui, c'est pas un problème. Il n'a pas besoin de faire de planning, peut-être. Quoique, il peut déjà considérer les sortes de livres qu'il va lire. Mais pour celui qui a peut-être du mal à lire, ou c'est pas dans son emploi du temps quelque chose de naturel, parce que il passe plus son temps sur WhatsApp, à la télé, ou à discuter 1 heure au téléphone. Mais, oui, mais j'ai peut-être besoin de lire ma Bible, par exemple. C'est pour ça que certains ont des plans de lecture. C'est un objectif, c'est être tranchant, c'est pas avoir la main lâche. C'est pas de se dire « Ah ben, le temps a passé, si j'avais su. » Vous savez, il y a une phrase assez connue maintenant qui est répétée un peu dans tous les milieux, c'est « Soit je rêve ma vie, soit je vis mes rêves. » C'est au choix. Il y a des gens qui passent leur vie à rêver leur vie. « Ah, un jour je ferai ça, j'aimerais faire ça, j'aimerais être comme ça. Un jour, on verra. » Et puis d'autres disent « Non, non, moi ce que je vis, ce sont mes rêves. » Mais pour vivre ces rêves, il faut être tranchant, il faut être actif, il faut avoir des objectifs. Dans la notion de lâche, là, quand il est parlé de la main lâche, sera tributaire, c'est-à-dire paiera un tribut, il y a un prix à payer à être d'avoir une main lâche. Ça signifie donc avoir une main, ça c'est littéral, insuffisamment tendue, ferme, mais ça part de laxisme en réalité. Et c'est vrai que quand on est laxiste, on porte rien. On porte pas les gens dans la prière, on porte pas les fardeaux, on porte pas une vision, on porte pas Christ en nous, espoir de gloire. Et donc notre vie devient d'une certaine manière un peu insignifiante. Très important l'emploi du temps, je vous encourage à ça. Cet été par exemple, quel sera votre emploi du temps? Quels sont vos objectifs? Alors, ça sert à rien d'avoir des objectifs aussi irréalisables parce que du coup on se culpabilise. Et comme on se culpabilise, on n'en fait plus l'emploi du temps, en disant « de toute façon, j'y arrive jamais ». Ben évidemment, c'était perdu dès le départ, c'était tellement irréaliste. Hein. Moi, je suis un peu comme ça. Moi, j'ai des listes, je vous dis pas les listes que j'ai. Bon, alors, je le prends très cool, moi. Je peux garder mes listes, ça me culpabilise pas. Ça me motive. Mais je pense que je vais mourir avec plein de listes de choses à faire. Mais il faut ça. C'est sinon, avoir une vie où on se dit « un jour, j'aurai tout coché ». Mais le jour où on aura tout coché, mes amis, d'abord, ça n'arrivera jamais. Ou alors, c'est « vous avez rien à faire ». Et alors, à quoi ça sert de vivre si on n'a rien à faire ? D'un côté, on est racheté par grâce sans les œuvres. On est sauvé par grâce sans les œuvres. Et en même temps, l'amour nous presse et la grâce de Dieu va faire qu'on va travailler plus que d'autres, nous dit Paul. Parce que l'amour de Dieu nous presse. Donc, très important d'avoir ça en tête, d'avoir des objectifs. On va peut-être échouer, mais de toute façon, quand je dis échouer, c'est qu'on n'arrivera pas à atteindre tous les objectifs. Mais cet échec-là est supérieur au fait de ne pas avoir d'emploi du temps. Vous en ferez toujours plus en ayant l'emploi du temps. Donc, vous serez gagnant, en réalité. En Proverbe 12, 27, il est dit, ça, il est joli celui-là, « Le paresseux ne rôtit pas son gibier ». Alors, en Darby, c'est traduit différemment, « Le paresseux ne rôtit pas sa chasse ». Et là, c'est le même principe que dans un des proverbes précédents, c'est que le gars, il n'est pas sans rien. Je veux dire, il a chassé, il a du gibier, donc il a la provision de Dieu. Mais des fois, on est un peu comme ça dans la vie. Il y a des choses qui nous plaisent dans la vie, puis il y a des choses qui ne nous plaisent pas. On n'est pas forcément paresseux à 100%. Dans les choses qui nous plaisent, on n'est peut-être pas paresseux. Donc peut-être que cette personne aime chasser. Et elle est peut-être assez douée pour avoir du gibier. Mais elle n'aime pas faire la cuisine. Et si on ne fait pas la cuisine, le gibier, il ne sert à rien. On a simplement tué un animal. Et vous pouvez avoir des fois une existence qui est de ce type. C'est-à-dire qu'on aura profité de certaines choses, on se sera régalé de certaines choses, on aura chassé, mais on n'aura pas été nourri. Et au bout d'un moment, on se dit, il y a quelque chose dans mon existence qui ne va pas bien. Je ne comprends pas, je chasse, j'arrive à avoir des animaux, à les tuer, je tire bien, il y a de l'abondance, le gibier est là, j'ouvre mon frigo, il est plein, tout va bien, j'en ai tellement de gibier que j'en mets dans le congélateur, mais j'ai toujours faim. Mais oui, parce que t'es paresseux, tu veux pas cuisiner. Donc le paresseux ne rôtit pas son gibier. Il a quelque chose, comme tout à l'heure, la main, la personne l'a, mais elle est lâche. Elle sert à rien. Là, la personne a du gibier, mais comme il est paresseux, il ne veut pas l'apprêter. Il ne veut pas le cuisiner. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Et pourquoi j'ai repris en Darby? Parce qu'en réalité, en hébreu, c'est le même mot que diligent. C'est toujours le mot charoutz. C'est pour ça que Darby a traduit, mais les biens précieux de l'homme sont aux diligents. C'est-à-dire que celui qui est diligent aura des trésors. Et c'est ça la vie, en fait. C'est-à-dire que la vie consiste, alors évidemment, être animé par des bonnes motivations. Parce qu'il y en a qui œuvrent à cause de la culpabilité, il y en a qui œuvrent pour l'appât du gain, il y en a qui œuvrent pour avoir le pouvoir sur les autres, être supérieur aux autres, diriger les autres. Il peut y avoir plein de motivations. Vous savez, ceux qui font du mal ne sont pas tous feignants. Tous les gens qui travaillent dans des associations lobbyistes qui font la promotion du mal dans nos civilisations, ce ne sont pas des gens feignants. Ce sont des gens qui réfléchissent, qui étudient les lois, qui ont fait des études, qui savent utiliser le langage, les mots, pour endoctriner des générations entières. Donc, le diable, même derrière tout ça, est actif. Le diable ne dort jamais. La paresse est l'atelier du diable, mais lui-même n'est pas paresseux. Il est actif jour et nuit. D'accord ? Donc, dans le combat spirituel qui est le nôtre, et dans cette vie qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle est pas longue. Elle est longue d'une certaine manière et elle est pas longue. Mais qu'est-ce qu'on peut faire comme chose avec une vie ? C'est extraordinaire ce qu'on peut faire. Là, j'ai écouté à midi, certaines personnes ont parlé de l'évangélisation, notamment d'une femme que tu as rencontrée de 82 ans. Mais on ne sait pas, 20 minutes de discussion avec quelqu'un, ce que ça peut faire dans sa vie. On ne sait pas. La fois d'avant, c'était avec ce musulman qu'on a rencontré. On a discuté quoi, une demi-heure à peu près? Une demi-heure dans la vie de cet homme qui, au départ, bon, enfin, même jusqu'à la fin, il avait quand même ses slogans, mais qui, dans la deuxième partie, était quand même un peu plus à l'écoute. Son cœur s'ouvrait, il y avait il y a quelque chose que Dieu a fait peut-être dans son âme, et peut-être ça va perdurer, ça va continuer, je n'en sais rien. On le reverra peut-être jamais. Mais une chose est sûre, c'est que passer une heure dans la rue, métro Guy Môquet, on n'a pas toujours des rencontres superbes. Des fois, il se passe rien. On est là au bout d'une heure. T'as eu des bons contacts? Non. Tout. Voilà, c'est pas toujours évident. Mais il y a des fois, c'est des rencontres qui viennent d'en haut. Et nous, notre vie où on a l'impression qu'elle est inutile, en réalité, en nous, on a un trésor. Vous imaginez? Alors, ça peut paraître prétentieux vu ou entendu de l'extérieur, mais on connaît Dieu. C'est pas extraordinaire comme témoignage. On a rencontré Dieu. Et pas seulement, hein, on a rencontré l'amour de Dieu. Parce que Dieu est amour. On a rencontré sa grâce. On a rencontré ses promesses. On a rencontré un livre qu'il a écrit. Parce que Dieu parle à l'humanité. Il a parlé par les prophètes, il a parlé par Jésus-Christ et il parle par la Bible. Et notre vie serait inutile. Mais si notre main est ferme, si on se saisit de la parole, si notre vie est tranchante, on peut avoir un impact dans le royaume des ténèbres. On peut percer le royaume des ténèbres. On peut amener à la lumière au milieu des ténèbres. Vous savez, les ténèbres, elles peuvent se répandre, je ne sais pas, sur plusieurs hectares, par exemple, pour utiliser une image humaine. Mais il peut y avoir des hectares de ténèbres. Imaginez l'impact d'une bougie dans ces ténèbres. La bougie, elle est petite, mais elle se voit de très très loin. Elle peut avoir un impact sur des hectares de ténèbres. Et nous, notre vie, c'est une petite lumière, mais qui sur cette terre, elle sera jamais éteinte puisqu'on a reçu la vie éternelle. Mais sur cette terre, dans le temps qui nous est imparti, cette bougie, un jour, elle va être éteinte. Mais pour l'instant, elle brille. On peut prier. On peut témoigner, on peut faire du bien, on peut visiter, on peut profiter aussi de ce qui a été dit tout à l'heure, de la maison de Dieu. Mais la vie nous permet d'avoir un impact éternel dans d'autres vies. C'est la vie éternelle en nous qui suscite une soif de connaître celui qui est mort à la croix. Donc les biens précieux de l'homme sont aux diligents. Vous savez, on parlait tout à l'heure de l'Institut biblique de ce pasteur qui au début prenait qu'un seul cours et puis ensuite a pris tout le programme. Mais j'étais en contact avec des chrétiens dans notre église, mais aussi d'autres assemblées qui ont pris des renseignements sur l'Institut, qui ont commencé. Le nombre de gens qui ont dit « un jour je viendrai, un jour je m'inscrirai », puis d'autres qui ont commencé, qui n'ont pas vraiment fini, qui ne font pas leurs devoirs et tout. Alors, il peut y avoir des raisons légitimes, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais des fois, c'est simplement une main lâche, pas de détermination. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un devoir, on s'assoupit sur le canapé. Au lieu de faire un deuxième devoir, bah finalement, on se détend, on regarde un feuilleton, une série B, n'importe quoi qui est à la télé. Parce qu'en fait, les gens font des choses. Moi, les gens qui n'ont pas le temps... J'en connais pas beaucoup, parce que j'en connais pas beaucoup qui se couchent à 9h le soir. Personnellement, j'en connais pas beaucoup. J'en connais pas beaucoup qui disent « Ah non, moi le soir, je peux rien faire ». Alors, des fois, on est un peu fatigué, on peut pas faire toutes les activités le soir, je le conçois aussi. Mais ne serait-ce qu'un petit peu du temps, plutôt que de l'expression classique « métro, boulot, dodo », c'est de se dire « Mais attends, le peu de temps que j'ai, qui me reste après le travail, le sommeil, la vie de famille, les courses, la fatigue, mais même s'il me reste pas beaucoup de temps, qu'est-ce que j'en fais de ce peu? Est-ce que ce peu de temps peut avoir un impact éternel? Est-ce que ça peut trancher dans ma vie? Et des fois, c'est ce peu de temps qui va, rayonner même sur tout le reste. Je vais peut-être travailler différemment, je vais peut-être même dormir différemment, j'aurai peut-être une vie de famille différente. Parce que le peu de temps où, ah non, mais ça, j'ai pas le temps. Ben non, mais peut-être que de traverser Paris pour aller à une étude biblique pendant 2 heures va avoir un impact pour 15 jours dans ma vie. Peut-être. Peut-être. Peut-être pas. Mais peut-être oui. D'accord? Ou sinon, c'est tout ce qu'on fait est inutile. Donc, la clé, c'est de se dire, moi, je ne veux pas subir ce qu'on nous impose. Et même ce que ma chair m'impose. Parce que ma chair, elle a son mot à dire. Enfin, elle veut dire son mot, plutôt. Elle n'a pas son mot à dire, mais elle veut le dire quand même. D'accord? Et donc, quand on est guidé par l'esprit, on a des objectifs. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Proverbe 13:4. Ça, c'est triste, ça. L'âme du paresseux a des désirs. C'est-à-dire que le gars, il veut vivre des choses, il a des désirs, mais il peut pas les satisfaire. Pourquoi? Parce qu'il est paresseux. Vous savez, ça me rappelle, quand j'étais ado, on voyait déjà ça dans le monde de la musique. Parce qu'évidemment, on voit à la télé, le gars, il a 16, 18, 20 ans, il joue comme un dieu, puis les autres disent, ils veulent faire pareil. Mais ça marche pas, vous savez pourquoi? Parce que parmi 100 jeunes qui veulent faire de la musique, il y en a 3, 4, 5 qui bossent comme des fous. Alors, il y en a, il faut avoir le talent, mais parlons, et puis, faut que ça plaise, faut être dans l'air du temps. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais je parle au niveau du travail. Les gens ne jouent pas de la guitare, de la batterie, ou même du chant, ou ils dansent pas, comme ça, du jour au lendemain. Ils prennent des cours pour certains, et d'autres. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, ado, les gens achetaient leur première guitare électrique, et je dis pas qu'il fallait faire ça, hein, mais ils le faisaient. Ils faisaient plus leurs devoirs, ils allaient tout juste à l'école, et dès qu'ils rentraient chez eux, jusqu'à 11h le soir, ils grattaient. Ce fait que 6 mois après, ils commençaient à jouer, ils disaient, waouh, il a fait en 6 mois déjà, tu sais faire tout ça. Oui, mais parce que lui, c'était un passionné. L'autre, il joue 3-4 accords par semaine, il sera jamais guitariste. Pourquoi? Parce que l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Le gars, il veut être virtuose, mais il ne le sera jamais. Parce qu'il est paresseux, il ne travaille pas son instrument. Et c'est valable dans tous les domaines. Je veux dire, on manque de pasteurs, toujours. Là, maintenant, il y a des annonces dans les journaux chrétiens. Je vais même pas sur les forums, Facebook et tout ça. Mais on recherche des pasteurs en permanence. Les gens n'en trouvent pas de pasteurs. Mais pourquoi? Bon, il y a plusieurs raisons que je vais pas toutes énumérer. Mais il y en a une, pour ceux qui voient le pastorat comme quelque chose digne de ce nom. Mais ils ont pas envie de s'y mettre. Il faut bosser pour être pasteur. Il faut étudier. Il ne faut pas simplement avoir envie de le faire. Alors, il y en a qui le font. Hein. On leur met la casquette de pasteur. C'est comme si on disait au guitariste qui connaît 3-4 accords, t'es guitariste. Oui, il connaît 3-4 accords. Mais toutes les semaines, il va jouer les concerts avec les 3 mêmes accords. Je ne vous dis pas le public dans quel état il est au bout d'un an. Il ne revient plus. Bien, c'est pareil dans les églises. Vous avez des gens qui prêchent les mêmes messages chaque semaine. Oui, et ce qu'ils prêchent, à la limite, c'est pas faux, ce ne sont pas des hérésies, mais ils n'ont jamais étudié, et donc ils ressassent toujours la même musique. Ils n'enseignent pas le plein conseil de Dieu. Et pour enseigner le plein conseil de Dieu, je peux vous garantir d'expérience, il faut être un étudiant de la parole de Dieu à vie. C'est pas « j'ai fait mes études dans un institut biblique il y a 30 ans ». Aussi bon soit-il, si vous n'avez pas étudié réellement depuis 30 ans. Alors, bien sûr que tous les pasteurs préparent un peu leur message, mais ça suffit pas. Il suffit pas de préparer son message pour dimanche prochain. Il faut étudier la parole de Dieu tout le temps. De dire, là, il y a des zones d'ombre. Ah bah tiens, là, j'ai découvert quelque chose. Il y a un angle. Pourquoi on a écouté les sessions? Nous, les pasteurs aussi, on les écoute, les sessions, comme vous. On n'est pas au-dessus de vous. Elles ont été publiées sur Zoom ou autre, et on les regarde. Pourquoi? Parce que moi, j'ai besoin de recevoir des autres. Moi, j'ai besoin d'être renouvelé. Moi, j'ai besoin d'étudier la parole de Dieu. Moi, j'ai besoin d'avoir le regard de quelqu'un d'autre, sa vie, son expérience, ce que Dieu a fait dans sa vie et qu'il est en train de me communiquer. Et c'est un enrichissement mutuel. Mais c'est à vie, ça. Pourquoi on organise des conférences où, on écoute la parole de Dieu journée entière par différentes personnes, des missionnaires, etc. Pourquoi c'est, on va dire, des cours intensifs, pour utiliser une autre expression? Mais parce que notre âme en a besoin, parce qu'on est dans un monde hostile, et si on n'est pas tranchant, si on ne veut pas lutter contre l'adversité, si on ne veut pas avoir un impact, si on veut avoir un impact sur notre environnement, il faut s'en donner les moyens. On n'est pas mieux que les autres. On est parfois fatigué, découragé, charnel, désobéissant. On est tous. Élie était de la même nature que nous, et nous, on est de la même nature que nous. D'accord? On est pareil. On n'est pas mieux. L'un n'est pas mieux que l'autre. Mais la différence, c'est qu'il y a des personnes qui vont se saisir que la grâce que Dieu leur donne. Tu as la grâce de connaître des gens qui peuvent t'équiper. Tu as la grâce de connaître des gens qui sont plus mûrs que toi. Tu as la grâce des gens qui peuvent répondre à tes questions. Tu as la grâce d'avoir un corps local où l'amour fraternel peut s'exprimer. C'est peut-être pas parfait, mais on espère en tout cas que la vie de Christ est manifestée entre nous. Il y a la grâce au travail ou autre d'être la bouche de Dieu là où nous sommes. Il y a la grâce d'être béni alors que nous sommes bénis de toutes bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes en Christ Jésus, selon Éphésiens chapitre 1. On a la grâce de manifester toutes ces bénédictions. On est des privilégiés. Nous sommes des privilégiés. Et on s'en rend pas compte. On a du gibier à la maison. On a une main qui peut faire plein de choses. On peut avoir un couteau aiguisé. On peut être diligent dans tout ce que on entreprend. En Proverbe 21:5, il est dit « Les projets de l'homme diligent ne mène qu'à l'abondance. » C'est pour ça que je vous dis que c'est un proverbe, hein, parce que là, c'est radical. Ça peut être que l'abondance. Non, il peut y avoir des fois des épreuves, même des famines spirituelles. Dieu peut utiliser ça dans nos vies. Mais toujours est-il que, globalement, généralement, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Et c'est là où on arrive à un point qui complète le reste. C'est être diligent, c'est être fonceur, d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on réfléchit pas. Être diligent, c'est pas simplement la foi en disant « Allez, j'y vais ». Non, c'est de se dire « Je vais où ? Qu'est-ce que tu me demandes à moi, Seigneur ? Je veux bien être diligent, mais de quelle manière ?» On ne doit pas être tous diligents de la même manière. Nous n'avons pas tous les mêmes dons, nous n'avons pas tous les mêmes capacités, nous n'avons pas tous les mêmes possibilités. Vous avez un enfant de 3 mois, c'est pas la même chose que d'avoir un enfant de 15 ans en tant que parent. Donc, on a différentes vies. On n'a pas les mêmes biens matériels. On gagne pas tous le même salaire. Donc, voilà, on a des vies différentes. On n'habite pas au même endroit. Et donc, on doit réfléchir. Il est dit là, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être des fous furieux non plus. Il arrive parfois, dans les églises, c'est souvent un trait de novice, que les gens disent « Ah bah parce que eux ils font comme ça, moi je vais faire pareil. » Non, on doit s'inspirer de gens qui nous précèdent, ça c'est sûr. Mais on doit imiter leur foi, pas imiter leur vie. Mais imiter leur foi, ça veut dire se saisir des défis qui ont été les leurs, mais de se les approprier pour nous et de se dire « Quels sont les défis que Dieu me demande à moi ?» Et là j'ai besoin de réflexion. Prière, méditation, savoir où nous en sommes, quelles sont nos capacités, demander conseil et de l'aide peut-être. Mais c'est quand même un point important. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire se vautrer dans la vie chrétienne en disant « voilà, le reste ne compte plus et je vais à fond dans tout. Je prends l'emploi du temps de l'Église et je vais être présent à tout. » Non, tout le monde ne peut pas être présent à tout. Et si nous faisons beaucoup d'activités, c'est justement pour donner plusieurs portes ouvertes aux gens. C'est que si une porte est fermée pour eux, il y en a une autre qui est ouverte pour eux. C'est pour ça une église qui se réunit une fois par semaine le dimanche matin, dans le monde où nous sommes, avec les emplois du temps décalés, les gens qui travaillent le dimanche, etc., ça ferme des possibilités à beaucoup de nos contemporains aujourd'hui. Donc il faut que l'église, je ne dis pas qu'il faut arrêter les cultes du dimanche, mais il faut que l'église s'ouvre en semaine. Il faut ouvrir les portes, ouvrir les points de contact, pour que chacun, en fonction de ses situations, soit en mesure de participer à la vie du corps local. Il y a des parents qui ont des enfants en bas âge, ils peuvent vivre la vie chrétienne. Je veux dire, les deux parents sont pas obligés de s'occuper de l'enfant, ils peuvent alterner. Donc, moi j'ai vu beaucoup de parents qui font ça, quand il y en a un qui vient, pas l'autre, et pendant quelques années, peut-être, ils alternent. Mais ils profitent de la vie de l'église. Ils vont pas se mettre dans un cachot parce que j'ai un enfant et c'est mon seul projet. Non, il y a la maison de Dieu aussi. Et la vie continue, la vie de l'Église continue, les besoins continuent. C'est pas parce que j'ai eu un enfant que j'ai plus de dons. D'accord? Donc je continue d'avoir mes dons dans l'Église. C'est pour ça qu'on est deux d'ailleurs. D'accord? C'est pour ça que Dieu a donné une épouse à l'homme, pour qu'on soit deux, pour nous aider. Et l'homme va aider la femme, bien entendu. Donc le fait d'être en équipe à deux permet d'alterner. Ça ouvre des possibilités. Mais quand c'est fait avec réflexion, avec sagesse, dans l'intérêt du Seigneur en fait. Et quand c'est dans l'intérêt du Seigneur, obligatoirement, en deuxième lieu, c'est dans l'intérêt de l'Église. Ça coule de source. Et du coup, ça devient bénéfique pour nous aussi. Comme je disais tout à l'heure, toute notre vie, en fait, va rayonner. Et vous savez, marcher par la foi, ça sous-entend aussi de croire que Dieu va bénir dans d'autres domaines. Il va s'occuper de ce que nous, peut-être, on aurait voulu s'occuper, mais on n'a pas le temps, mais on choisit de travailler d'abord pour les choses éternelles. Mais ça n'empêche pas la réflexion et la méditation. D'accord? Parce que celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette aussi. Et des fois, il y a des chrétiens qui se retrouvent avec une langue grande comme ça, épuisés simplement parce qu'ils n'ont pas réfléchi. Et quand on ne réfléchit pas et qu'on n'est pas dans le plan de Dieu, il n'y a pas la provision de Dieu qui nous accompagne et ça nous fatigue. Et alors après, on est déçu, on en veut aux autres, etc., alors que c'est nous-mêmes qui n'avons pas été sages. En Proverbe 22-29, « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. » Et là, alors là, ça parle de la vie terrestre, hein, dans un royaume, mais dans le royaume de Dieu, ça signifie qu'on se tient auprès de Dieu lui-même. Et ça me fait penser, vous savez, dans le désert, quand Dieu a choisi c'est Moïse, mais c'est Dieu derrière lui, il a choisi des hommes doués pour construire le tabernacle et tout ça. En fait, ils étaient au centre de la vie de la nation, ou la vie du peuple. Ils construisaient le tabernacle. C'était la maison de Dieu, pour reprendre le thème de la conférence de cette semaine. Et donc, ils étaient là auprès du roi, auprès de la Shekinah, au centre de la vie d'Israël. C'est-à-dire qu'ils avaient des dons, c'était des orfèvres, étaient les plus doués, et ils travaillaient à l'œuvre du Seigneur. Et là, c'est ce que ce proverbe dit. « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. » Intéressant. Et ça parle du croyant qui va utiliser les dons qu'il a pour le royaume de la lumière, et non pour le royaume des ténèbres. Vous savez, on a du temps, je vous l'ai dit, on peut avoir des dons, on a la santé, il y en a qui ont la jeunesse. Pour qui l'utilise-t-on? La question est là. Mais celui qui a des dons, qui est croyant, il va les soutenir auprès du roi, c'est-à-dire qu'il va s'en remettre à Dieu pour avancer dans le royaume de Dieu. Alors vous allez me dire, mais moi j'ai pas d'idée, j'ai pas de projet, etc. Faites déjà des projets spirituels dans le côté de votre vie personnelle. Lecture de la Bible, est-ce que vous avez un plan de lecture? Est-ce que vous avez, allez, je dirais, un livre par mois? Ok. De maintenant jusqu'à la fin d'année, il reste 6 mois, quels sont les 6 livres que vous allez lire, par exemple? Certains pensent à l'Institut biblique, s'inscrivent, etc. Quels sont les cours que vous allez prendre, objectif? Après, bah tiens, je vais faire du bien à mon prochain, peut-être que je suis un peu casanier, je vais inviter des gens chez moi ou faire des visites. Pas obligé de le faire tous les jours. Peut-être pour certains qui l'ont jamais fait, une fois par mois, je vais m'intéresser à quelqu'un de l'Église. Un autre objectif, c'est d'inviter quelqu'un que vous avez jamais invité. Parce que des fois, on vit la communion fraternelle entre les gens que l'on connaît. Mais c'est bien aussi de s'inviter les uns les autres alors qu'on se connaît pas. Ça commence tout, vous savez, à chaque fois qu'on connaît quelqu'un, tout simplement parce qu'un jour, on a fait la rencontre de quelqu'un qu'on connaissait pas. Et après, on l'a connu. Donc, faut toujours commencer avec l'inconnu. Mais simplement aller au-delà de la vie routinière. Et des fois, on va peut-être se faire des amis. On n'est pas amis avec toutes les personnes de l'Église. On est tous frères et sœurs, communion fraternelle, respect, bien entendu. Mais on n'a pas des atomes crochus avec tout le monde. C'est pas un péché, ça. Mais parfois, en faisant ça, on va se découvrir des amis. On va se découvrir des confidents. Et du coup, notre vie va rayonner un peu plus et on va en profiter. Ne soyons pas lâches dans notre vie, amorphes. Soyons aiguisés. Ayons du discernement. On a peut-être du gibier, mais si c'est la paresse qui accompagne le gibier, il n'y a pas la cuisine qui est faite. Quelle est ma cuisine à moi? Qu'est-ce que je fais dans ma cuisine? De quoi je me nourris avec les richesses de la grâce de Dieu qui sont dans ma vie? Quelle est ma nourriture? Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Voilà. Et ça se prévoit, ça se décide. Lorsque Jésus, la dernière fois qu'il est allé à Jérusalem, alors qu'il savait qu'il allait aller à la croix, en grec, la forme est forte parce qu'en fait, quand il s'est tourné vers Jérusalem, il a eu comme un visage de pierre. C'est-à-dire qu'il y a eu une détermination. Il savait que c'est la mort qu'il attendait, que c'était la fin. Il a décidé. Il avait un objectif. Il était diligent. Il était tranchant. Il ne subissait pas, en fait. Pourtant, Hérode était contre lui, les Romains étaient contre lui, les pharisiens étaient contre lui, Judas était contre lui. D'une certaine manière, on peut penser qu'il subissait. Il subissait pas. Il accomplissait la volonté de son Père.